Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La réforme de l'assurance chômage présentée hier par le Premier ministre. Les demandeurs d'emploi devraient cotiser plus longtemps pour être indemnisés alors qu'un système de bonus-malus serait mis en place pour inciter les entreprises à moins recourir aux contrats courts. Ce sont les demandeurs d'emploi qui vont payer les économies selon le syndicat Force Ouvrière. De son côté, le MEDEF s'insurge contre la taxation des contrats courts, on les entendra.
Les Républicains, la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste sur une même estrade pour récolter les 4,7 millions de signatures indispensable pour le RIP.
Le référendum d'initiative partagée dont la plateforme est ouverte aux signatures, un meeting commun est prévu ce soir à Saint-Denis.
71 millions de réfugiés dans le monde du jamais vu, selon ce chiffre dévoilé ce matin pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Et puis nous irons à Los Angeles où Facebook a lancé officiellement sa monnaie virtuelle avec l'espoir de concurrencer les banques dans les transactions internationales. C'est une réforme dont l'objectif est d'économiser 3,4 milliards d'euros sur 3 ans et atteindre 250 000 demandeurs d'emploi de moins d'ici 2021. La réforme de l'assurance chômage a été présentée hier par le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Pour accéder au droit au chômage, les demandeurs d'emploi vont devoir travailler plus longtemps, 6 mois sur 2 ans contre 4 mois actuellement. Le montant de l'indemnisation sera en plus calculé sur le nombre de jours travaillés, mais sur la somme gagnée chaque mois en moyenne. Pour Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, cette réforme est inacceptable.
C'est absolument incompréhensible. Le Premier ministre, devant le Parlement, fait le constat qu'on n'en a pas fini avec le chômage, qui enferme dans la précarité les familles, les territoires. Et que propose le gouvernement aujourd'hui? C'est sanctionner les demandeurs d'emploi et en particulier les plus précaires. C'est un procès qui est fait aux salariés précaires d'être dans la précarité. La révision des règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi va contribuer à faire des économies sur l'assurance chômage et peut-être à financer pour partie quelques mesures. On annonce 1000 créations d'emplois sur 3 ans à Pôle emploi sur les mesures d'accompagnement, mais on a le sentiment que ce sont les demandeurs d'emploi qui vont payer eux-mêmes soit les économies, soit les mesures annoncées en matière d'accompagnement. On est revenu au point de départ. Le gouvernement nous annonce aujourd'hui la lettre de cadrage qu'il voulait imposer à la négociation collective dès le départ, il y a quelques mois en arrière. C'est un échec, il n'y a que des perdants et malheureusement les premiers d'entre eux sont les demandeurs d'emploi.
Du côté des entreprises, le gouvernement prévoit notamment un système de bonus-malus en fonction du recours aux contrats courts dans 7 secteurs particulièrement gourmands en contrats précaires, notamment l'hôtellerie et la restauration, une taxe de 10 euros par CDD. Une idée que rejette le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Sans nier qu'il peut y avoir dans certains cas des abus, la réalité c'est que ça sera soit inefficace, soit au pire que ça découragera l'emploi. Je vous prends un exemple très simple, l'hôtellerie-restauration qui est concernée par le bonus-malus et par les contrats d'usage. Les saisonniers, c'est pas parce que on taxe les contrats que l'été va durer plus longtemps. C'est une vision punitive de l'économie qui aura très très peu d'effet. Concernant le volet indemnisation, ce que propose le gouvernement va certainement permettre à des demandeurs d'emploi de reprendre du travail plus vite. Et c'est pas les individus qui sont en cause, c'est plutôt le système qui permet d'optimiser. Donc si on résume, un volet indemnisation qui va dans le bon sens de ce qu'on avait proposé et un volet d'irresponsabilisation qui est punitif et qui n'aura malheureusement aucun impact.
Des propos recueillis au micro France Culture de Noémie Philippot. Après l'Assemblée nationale, les sénateurs ont commencé hier soir à examiner le projet de loi sur la transformation de la fonction publique, un projet qui prévoit un recours accru aux contractuels et un nouveau cadre de dialogue social. L'opposition unie pour obtenir le RIP, le référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Ce soir à Saint-Denis, à la Bourse du Travail, le député LR du Val-de-Marne, Gilles Carrez, montera sur l'estrade aux côtés d'Éric Coquerel de la France Insoumise et du communiste Fabien Roussel. Des élus socialistes seront également présents. Un meeting pour lancer officiellement une grande campagne commune de collecte de signatures, car après avoir obtenu que soit engagée une procédure de référendum d'initiative partagée, il faut maintenant réunir les signatures de 4,7 millions de Français d'ici le mois de mars, Rosalie Lafarge.
4 700 000 signatures en 9 mois, cela revient à 17 000 par jour. Et sur un sujet comme la privatisation d'ADP, ce n'est a priori pas évident, concède le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
C'est un sujet aride. Et en réalité, il est extrêmement compliqué au départ d'intéresser les Françaises et les Français à ce qu'ils peuvent considérer comme un sujet technique, financier. Mais ils savent aussi, les Français, que en 2005, il y a eu une privatisation qui leur a coûté à eux très cher et qui est celle des autoroutes.
Fort de cet argument, il en est persuadé, l'opposition rassemblée peut parvenir à convaincre beaucoup de Français.
Je ne sais pas si ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions. Ce que je sais, c'est que ces signatures seront un fait politique. Le gouvernement ne sera jamais en mesure de proposer un référendum s'il a le sentiment que l'opinion sur ce sujet est une opinion qui est farouchement hostile et qu'elle est prête à se mobiliser sur une échéance comme celle-là.
Mais pour motiver l'opinion publique, les socialistes le savent, il va falloir aller la chercher sur les marchés, à travers des meetings communs, par les réseaux sociaux. Il faut être présent ensemble et partout, résume Patrick Kanner, chef de file des sénateurs PS.
Il faut que cette dynamique s'essaime sur l'ensemble du territoire national. C'est une forme de prosélytisme utile pour le pays. Mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. 9 mois, c'est long. Le risque, c'est l'essoufflement.
Les militants sont prévenus. On fera appel à leurs petits bras tout l'été, notamment dans les lieux touristiques. Mais les instances du PS invitent aussi tous les citoyens à s'emparer de la démarche à travers, par exemple, un kit de campagne disponible sur le site lancé pour l'occasion, référendum-citoyen.net.
Rosalie Lafarge.
7h06 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Sophie Delpont. 71 millions de réfugiés dans le monde, c'est le triste record pointé ce matin par l'ONU.
Oui, un chiffre inédit pour le nombre de réfugiés l'année dernière, une situation qui inquiète le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui tacle au passage l'Europe où chaque secours de migrants en mer Méditerranée provoque une mini-tempête diplomatique pour savoir qui va accueillir les réfugiés. À Genève, les précisions de Jérémy Lange.
Jamais en presque 70 ans d'existence, le HCR n'avait comptabilisé autant d'exilés. Et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés pourrait même être en deçà de la réalité. En cause, les 4 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays ces derniers mois, 500 000 seulement ont été enregistrés par le HCR. Le chiffre total des personnes déplacées à travers le monde serait donc plus proche des 74-75 millions. Au milieu de ce constat, l'Europe continue de se déchirer sur la répartition des migrants. Les pays de débarquement comme l'Italie réclament toujours une plus grande solidarité entre les 28. Mais en vain. Le sommet de la semaine dernière à Malte entre les pays du sud de l'Europe n'a rien donné. Au grand dam du patron du HCR, Filippo Grandi déplore la frilosité des dirigeants sur ce dossier.
Bateau par bateau, ils arrivent à faire des accords. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas faire des accords qui soient plus prévisibles. Nous avons des ministres qui passent des heures au téléphone à négocier la répartition des gens qui arrivent à débarquer quelque part dans l'Union européenne. Les gouvernements sont terrifiés de prendre ces engagements parce qu'ils ont peur que ça soit utilisé dans leur pays à des fins électoraux. Tout le monde le sait. Donc l'appel que je fais maintenant, dans une situation où on a derrière nous les élections européennes, on a des chiffres franchement gérables d'arriver en Europe, c'est le moment finalement d'affronter cette question, ne fût-ce qu'une solidarité entre certains pays.
Exception faite de l'Allemagne, 5e dans le classement, les principaux pays d'accueil restent la Turquie, le Pakistan, l'Ouganda et le Soudan. Les pays développés n'accueillent en fait que 16% des réfugiés dans le monde.
Jérémy Lange pour France Culture. Aux États-Unis, c'est désormais officiel, Donald Trump est candidat à un second mandat à la Maison-Blanche. Il l'a formellement annoncé hier soir dans un grand meeting à Orlando en Floride devant 20 000 de ses supporters. Le 45e président des États-Unis se lance dans la course à 1 an et 4 mois de la prochaine élection. Elle aura lieu le 3 novembre 2020. Un discours marqué hier soir par de nombreuses références à sa campagne de 2016 et un message à ses électeurs. L'Amérique ne doit pas devenir un pays socialiste. À Washington, Gregory Phillips.
C'est Mike Pence, le vice-président, qui annonce l'arrivée de Melania et Donald Trump sur le podium installé dans cette salle qui d'habitude accueille des matchs de basketball. Dans la fosse et les tribunes, c'est un océan de casquettes rouges « Make America Great Again » car les supporters de Trump ont ressorti les couvre-chefs, les t-shirts et même les slogans de 2016. « Build that wall », »,« Construisez le mur » ou encore « Lock her up ». Enfermé là à propos d'Hillary Clinton, que 4 ans après, Donald Trump continue à attaquer comme si on était encore en 2016. Paradoxalement, Trump ne cite quasiment pas ses adversaires démocrates d'aujourd'hui, les Joe Biden ou Bernie Sanders, mais il prévient la foule de ses militants. Voter pour n'importe lequel de ces démocrates en 2020, c'est voter pour un socialisme radical et la destruction du rêve américain. Andrea et Bonnie, venues de Tampa, plus au sud de la Floride, sont conquises. Il fait du bien à notre économie, il aime nos militaires et il défend le peuple américain. Puis le 45e président des États-Unis termine son discours qui aura duré 1h20 et promet de garder la grandeur de l'Amérique. Keep America great.
Grégory Phillips, les ressorts de la stratégie de Donald Trump. Camille Magnard reviendra dans sa revue de presse internationale à 7h35 sur France Culture sur ses stratégies et donc tout ce que met Donald Trump en œuvre pour remporter cette nouvelle élection. Facebook a maintenant sa propre monnaie. Le réseau social lance Libra, monnaie virtuelle qui pourrait devenir la première crypto-monnaie grand public avec l'ambition de concurrencer à terme le système financier actuel. Elle devrait permettre des transactions internationales avec des commissions faibles. Facebook vise notamment les 1,7 milliard de personnes dans le monde sans compte en banque et carte de crédit. Et il mettra cette monnaie en circulation au premier trimestre 2020. Les précisions à Los Angeles de Loïc Piala.
Mark Zuckerberg a annoncé son ambition il y a quelques semaines. Envoyer de l'argent à quelqu'un devrait être aussi facile que lui envoyer une photo. Le fondateur de Facebook compte sur Libra pour y arriver. La firme californienne ne relève pas seule. Le défi de cette monnaie virtuelle est mondial. D'ici son lancement l'an prochain, une centaine de grandes entreprises dont Visa, eBay, Spotify ou Uber devraient rejoindre la plateforme. C'est une association à but non lucratif qui gérera la devise à Genève. Facebook, marqué par de multiples scandales depuis 2 ans, espère ainsi rassurer les sceptiques. David Marcus, en charge de Calibra, le portefeuille numérique du géant de la Silicon Valley, explique à la chaîne CNBC l'intérêt de Facebook à connecter ses 2,5 milliards d'abonnés et les 90 millions de commerçants présents sur le réseau social.
Si tout le monde peut utiliser une seule unité de valeur pour chaque transaction, nous pensons qu'avec le temps, Libra créera plus d'opportunités pour plus de commerces sur notre plateforme. Et toutes ces petites entreprises achèteront potentiellement plus de publicité parce que les publicités seront plus efficaces.
Libra promet aussi d'être plus stable que Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue, mais dont la valeur peut varier drastiquement du jour au lendemain.
Loïc Piala à Los Angeles pour France Culture. Retour en France avec la météo. Des averses annoncées sur la moitié nord ce matin, soleil au bord de la Méditerranée, quelques passages nuageux sur le reste du territoire. Les températures moyennes sont comprises entre 14 et 27 degrés, avec 14 degrés à Brest, 20 à Paris, 23 degrés à Nice et jusqu'à 27 degrés à Ajaccio.